Conférence privée du 29 décembre 1986, Père Marie-Dominique Philippe, Saint-Jodard.
Nous allons continuer l'effort de ce matin, c'est-à-dire essayer au plan philosophique, dans un regard de sagesse, c'est-à-dire ayant découvert que l'âme spirituelle est créé directement par Dieu dans le corps. Nous nous posons la question: pourquoi Dieu, dans sa sagesse, le philosophe peut se poser la question, pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a-t-il voulu que son chef-d'œuvre, ici je ne parle pas des anges, hein, donc c'est un chef-d'œuvre par rapport à tout l'univers. Pourquoi a-t-il voulu unir l'esprit et la matière, l'esprit et le corps? Alors, je vais vous rappeler les deux positions extrêmes. Vous considérez le corps comme un tombeau, Platon, ou au contraire, l'exaltation du corps. On aurait Épicure, du reste. Épicure serait un peu l'exaltation du corps. Les stoïciens, en ne regardant que le point de vue du corps sans regarder l'esprit. On aurait d'autres positions qui considéreraient le corps comme ce qui est vraiment la béatitude de l'homme, dans l'aspect sportif, dans l'aspect du développement propre de l'homme, du corps de l'homme, comme tel. Alors, je vous disais qu'il fallait d'abord considérer, c'est je crois la première chose que le philosophe doit souligner, si Dieu a voulu l'esprit lié au corps, c'est pour que la créature puisse devenir source de vie. Tout le problème de la procréation, l'esprit comme tel ne peut pas être source de vie. L'esprit créé ne peut pas être source de vie. Au plan philosophique, on comprend que l'esprit ne peut pas être source de vie, parce que l'esprit, comme l'être, est participé et ne peut pas être substantiel. Ce serait contradictoire, un esprit créé substantiel. Il n'y a que Dieu, il n'y a que l'être premier qui peut être un esprit substantiel. Toutes les réalités autres que Dieu ne peuvent que participer de l'esprit, comme ils participent de l'essai. Donc leur esprit, comme leur être, est ab alio, c'est-à-dire dépend d'un autre, est relatif et n'est pas substantiel. Pour être source de vie, il faut quelque chose de substantiel, c'est-à-dire il faut une autonomie suffisamment profonde, radicale, pour pouvoir être cause, principe d'un autre être vivant. La matière permet cela. La matière permet qu'il y ait une autonomie substantielle qui soit source d'une vie, d'une autre vie. Et du côté du Créateur, je vous ai déjà dit, c'est d'essayer de comprendre que Dieu, comme Créateur, c'est-à-dire comme celui qui communique l'être, ne peut pas se servir d'instrument, puisque l'acte créateur est à partir de rien, tandis que Dieu, Créateur, communique la vie, des êtres vivants. Et s'ils ne créent pas la vie, c'est un peu subtil, mais c'est très important de bien distinguer les deux. Ils créent des êtres vivants, mais ils ne créent pas la vie, ils créent l'être. Les deux extrémités de la création, c'est l'être et l'esprit. L'esprit dépend directement de Dieu comme l'être. Et entre deux, il y a la vie, il y a le vivant. Esse vivere, intelligere. La fameuse des trois niveaux sur lesquels les néoplatoniciens reviennent tout le temps. Et qui sont trois niveaux du reste que nous pouvons décrire. L'essai, c'est ce qu'il y a de plus commun, exister. Tout existe. Tout ce qui est existe. Tout ce qui est créé existe. C'est fondamental. L'esprit intelligere, c'est quelque chose de spirituel, d'immatériel, qui est source de pensée, d'intelligence. Et ceci dépend directement de Dieu. Et le vivere, et le lien entre les deux, le fait de vivre, et le fait de vivre n'est pas directement créé, parce que le fait de vivre est une modalité d'être. Ce n'est pas l'être. Nous distinguons en nous l'être et la vie. En nous et dans les réalités qui sont autour de nous. Pour dire que le soleil existe, il n'y a pas de vie dans le soleil. La lune existe, il n'y a pas de vie dans la lune. Et on se pose des questions, y a-t-il dans les planètes que nous pouvons connaître la vie? On sait qu'elles existent, mais on ne sait pas si la vie est présente. La vie présuppose l'être, une modalité parfaite d'être. Et le vivant parfait peut engendrer. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire justement que le vivant, tout en étant dans un être limité, créé, a suffisamment d'autonomie pour être source pour un autre être de vie. Kosod. Ça fait partie du très grand mystère de la vie. C'est que Dieu peut, comme créateur et père, créer des êtres qui soient suffisamment parfaits, qui puissent être source de vie, tout en étant des créatures. Vous comprenez bien ce sophisme que nous retrouvons dans les idéologies athées contemporaines. Être créé veut dire être indépendant. Être vivant veut dire être autonome. Donc, l'être vivant ne peut pas être créé. On ne peut pas l'oublier. C'est au cœur, je crois, de certains athéismes, à la manière de l'athéisme de l'absolu, de l'évolution. Le vivant ne peut pas être créé puisqu'il implique une certaine autonomie. Et c'est vrai que le vivant, il se meut. Dans la mesure même où il se meut, il est autonome. Et dans la mesure où il est créé, il est dépendant. Donc, si on n'arrive pas à distinguer ce qui est en tant qu'il existe et ce qui est vivant comme vivant, on dira que c'est contradictoire d'être créé et d'être vivant. Comme être vivant, on le constate. Tandis qu'être créé, je ne le constate pas. On dira donc que c'est un mythe de prétendre la création. Tout simplement par le fait que le vivant comme tel se meut. Ça, il faut bien le comprendre, parce que c'est une petite distinction très importante à bien faire. Bien que, encore une fois, pour nous, vivre c'est être. Vivre c'est exister. Et quand vous cesserez de vivre, au moment de la mort, vous cesserez d'exister tel que vous êtes. dans ce composé et dans cette unité. Oui, c'est pour ça que c'est pas si commode que ça à bien distinguer selon le jugement de fait. Le fait d'exister, c'est vivre. C'est la constatation, ça. Vous n'avez jamais en vous constaté votre existence sans voir que vous êtes vivant. C'est contemporain. C'est évident puisque vous constatez votre existence par votre pensée. Et votre pensée, c'est votre vie. Tandis que vous pouvez faire l'expérience de réalités qui existent et qui ne sont pas vivantes. Faisant cette constatation de réalités qui existent et qui ne sont pas vivantes, vous pouvez essayer de comprendre qu'affirmer ceci existe, ce n'est pas la même chose que de dire ceci vit. Il y a deux jugements différents. Et vous pouvez ensuite l'appliquer à vous-même. Dire j'existe et je vis. Et mon existence, pour moi, elle est dans mon vivere, dans mon fait de vivre. Je n'ai pas existé indépendamment de mon fait de vivre. Et c'est vrai. Vous avez existé dès le premier moment de votre conception. Et vous continuez d'exister. Mais vous pouvez constater du plus et du moins dans votre existé. Quand vous vous mettez à dormir, votre vie en prend un certain coup. Vous ne vivez pas de la même façon quand vous dormez que quand vous priez, du moins j'espère. Vous ne vivez pas de la même façon quand vous faites de la philosophie ou que vous dormez. Faire de la philosophie, ça fatigue. Dormir, ça repose. Normalement, du reste. N'est-ce pas ? Alors, c'est de fait deux choses différentes. Nous pouvons constater que nous existons tous et que dans notre vie, il y a du plus et du moins. Ce qui montre bien que même si il y a identité entre l'affirmation « pour moi, vivre, c'est être », c'est vrai fondamentalement, mais ce n'est pas vrai adéquatement. Parce que dans ma vie, j'ai des moments où je vis plus intensément, tandis que j'existe toujours, même quand je dors. Est-ce que j'existe moins quand je dors, quand je dors pas ? Au niveau exister, non. J'existe substantiellement dormant, j'existe substantiellement réveillant. C'est la même réalité. Donc je peux déjà, par rapport à moi-même, faire un discernement dans mon vivre et dans ma manière de vivre et ma manière d'être. Ce qui me permet de comprendre même par rapport à moi. La distinction entre vivre et être. Et je le constate très bien chez les autres. Parce que quand quelqu'un est là en face de vous, je suis présent, j'existe pour toi, puis dors. Alors, vous avez envie de dire, mais tu n'es pas très présent. Ben, je dis oui, j'existe. C'est ma manière d'être présent, j'existe. On peut exister comme une bûche. Mais on n'est pas vraiment présent. Être présent implique le point de vue de la vie. On est présent avec quelqu'un quand on est éveillé. Et quand on est éveillé, non seulement quant à sa sensibilité, mais quant à son intelligence et son cœur. Donc, on voit très bien que nous pouvons distinguer quand même les deux. Eh bien, ce qui caractérise le vivant, c'est qu'il se meut. Et quand il est parfait, il est capable d'être source de vie. Et quand il s'agit de l'homme, la procréation impliquant la création d'une âme spirituelle, il faut donc qu'il y ait un concours, une coopération du Dieu, non pas créateur, puisque c'est impossible, du Dieu Père, avec les parents. Vous voyez la difficulté, c'est de bien comprendre qu'il est père et qu'il est créateur, mais que dans sa paternité communique. décret, mais il l'a créé dans le corps. Alors, créant l'âme dans le corps, l'âme informe le corps. Et l'âme fait que, en étant présent d'un vivant, qui implique composition de l'âme et du corps, et le corps peut être formé par les parents. Le corps normalement est formé par les parents. Le corps est conçu par la mère et le père. Et le corps est le lieu de la formation de l'âme, le lieu où l'âme est créée. Et Dieu crée ce tout qui est l'âme et le corps, puisque ce tout existe d'une existence substantielle, unique. Il n'y a pas de séparation, comme c'est délicat. Et la coopération se fait du côté de la disposition par rapport au corps. Si Dieu, dans sa sagesse, a pensé des vivants spirituels unis à un corps, c'est pour que ces vivants spirituels puissent être source de vie. Parce que l'homme, quand il est père, et la mère, quand elle est mère, c'est une action humaine, donc morale, éthique, et donc spirituelle. C'est une action qui relève de la personne humaine, et non pas uniquement de l'aspect biologique. C'est donc pour que la biologie, le vivant biologique, soit assumé par l'esprit, et que la personne humaine puisse être source de vie, source d'un autre être vivant. Et c'est bien l'esprit qui, grâce au corps, devient source de vie. Puisque l'esprit, c'est la personne. J'ai engendré un fils de Pariavé, le cri de notre première mère, Ève, quand elle mut au monde Cain. J'ai enfanté un fils de Pariavé. C'est la personne. Je suis père, c'est la personne. Je suis mère, c'est la personne. Et la personne implique l'esprit. C'est donc bien l'esprit qui devient source de vie, grâce au corps. Vous voyez, donc on peut dire que dans sa sagesse, Dieu a voulu unir l'esprit au corps pour que l'esprit, le plus fragile qui soit, le plus faible, comme disent les néoplatoniciens, on est à l'horizon du monde physique et du monde spirituel. Et l'homme est l'esprit dans sa forme la plus fragile, la plus débile. Il ne faut jamais l'oublier. Comparativement aux anges, on est des petits débiles. On marche toujours un peu à quatre pattes. On a de la peine à rester debout et à rester spirituel. C'est vrai que pour l'ange, c'est terrible. Par ces êtres spirituels qui se mettent à dormir. C'est assez affolant. Ils ont besoin de dormir. Et c'est vrai, c'est grâce au corps qu'on dort. Si c'est un bienfait, c'est grâce au corps qu'il y a cette vie particulière, tout à fait spéciale, qui est cette vie biologique. Manger de l'herbe. Des carottes. C'est une opération très particulière. Donc, on voit bien toute la vie végétative et le sommet de la vie végétative, la procréation. Où il y a un concours avec Dieu, grâce au corps, ce que l'ange ne connaît pas. L'ange ne connaît pas ce concours particulier d'un vivant spirituel avec le Créateur. n'existe pas chez les anges. Les anges ignorent la paternité et la maternité. Tandis que l'homme peut connaître la paternité et la maternité. Donc c'est quelque chose de très grand, ça, grâce au corps. L'union de l'esprit et du corps. Alors, avec la création, avec la procréation, c'est l'éducation. Éduquer un être spirituel. Les anges ne connaissent pas ce que c'est qu'éduquer. C'est quelque chose de très grand d'éduquer. C'est l'art le plus parfait qui soit. Éduquer. Faire la cuisine, c'est très très bien. Mais c'est quand même moindre que d'éduquer. C'est permettre au corps humain de se nourrir, mais c'est quand même moindre. Vous voyez, on retrouve l'art tout de suite. L'art de l'éducation. Communiquer aux autres. Des perfections que nous avons acquises. Éduquer, enseigner. Tout cela, c'est grâce au corps. Et c'est fondé dans le point de vue de la procréation. C'est pour ça que je peux ajouter tout de suite que le corps non seulement permet à Dieu de faire que la personne humaine devienne source de vie. Et le corps permet à l'intelligence, donc à l'esprit, de connaître un développement que l'esprit ne connaîtrait pas autrement. Du côté artistique, l'art culinaire, les anges ne font pas la cuisine. Je ne sais pas s'ils ont envie de faire la cuisine, ça je ne sais pas du tout. Demandez à votre ange gardien si de temps en temps il a envie de vous remplacer. Ce serait magnifique, on n'aurait pas besoin de chercher quelqu'un d'autre, on demanderait à l'ange gardien de vous remplacer. Je ne sais pas si la sauce serait bonne, elle serait angélique. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'art représente une extension de l'intelligence grâce au corps. Et là, il y a quelque chose de très important à souligner. Je peux voir encore une autre extension de l'intelligence, l'intelligence affective. Il y a une extension de l'intelligence dans le point de vue de l'affectivité. L'intelligence affective. Et l'intelligence prudentielle. Donc, trois développements de l'intelligence tout à fait particuliers. L'art, la prudence et l'aspect affectif. L'aspect affectif se développe dans l'amour d'amitié. La philia, l'amour d'amitié. L'amour d'amitié existe grâce au corps. Et l'amour d'amitié représente du côté de l'intelligence et du cœur, donc du côté de la volonté, quelque chose de tout à fait unique. Tout à fait nouveau, grâce au corps, l'intelligence peut donc connaître une activité nouvelle qui est l'amitié. L'amour d'amitié, le choix d'amour d'amitié. Je peux réfléchir au plan philosophique en disant si il y a des esprits créés, ces esprits créés ne peuvent pas connaître l'amitié. Là, je peux demander conseil au théologien en tant que philosophe, frapper à sa porte. Je lui demander, est-ce qu'il y a une amitié chez les anges, puisque vous êtes des spécialistes des anges en tant que théologien. Et le théologien répondra qu'il n'y a pas d'amitié chez les anges au plan naturel. Qu'il n'y a qu'une amitié spirituelle, surnaturelle, vous dire même tout de suite surnaturelle. Parce que l'amitié naturelle serait spirituelle. Il n'y a pas d'amitié. Les anges n'éprouvent pas le besoin de vivre en vie commune. Ils n'éprouvent pas le besoin. Ils sont des solitaires. Ils sont tous des moines. Par naissance, par création, plus exactement, puisqu'ils ne sont pas nés. Tous ces moines, ils ont une vie angélique, qui est monastique. Mais ils n'ont pas de liturgie.
Ça peut arriver, ça.
avoir l'air d'être tous héroïques. Se voit la nuit. La communauté se lève la nuit, il y en a un qui se lève. Et la communauté se lève la nuit, il y en a un. Ça peut se faire, ça existe dans certaines communautés, je vous affirme. J'ai déjà vu ça. Ça fait bien. Le lever de nuit régulier. Parce qu'il y en a un qui se lève le lundi, un autre le mardi. On n'a rien. Est-ce que le corps est engagé dans l'império de « il faut » et la morale kantienne? Quand vous dites au contraire que l'amour repose, que la morale repose sur l'amour, est-ce que le corps est engagé? Oui, je vous pose la question pour qu'on comprenne mieux. Comment il est nécessaire de regarder la place du dans la morale, si ma morale repose sur l'amour, si ma morale repose sur l'impératif catégorique de Kant, le corps n'intervient pas tout de suite, pas immédiatement. Alors je comprends comment ça aboutit progressivement à faire une dichotomie, une opposition. D'où Freud. Freud est né en face de la morale kantienne. Faut jamais l'oublier. Alors, je m'explique pour que vous compreniez bien. Si la source de toute morale, c'est un amour spirituel qui porte sur une personne, la personne implique l'âme, l'esprit et le corps. Vous ne pouvez pas aimer une personne de façon abstraite. Même quand vous désirez aimer Miss Idéal, puisqu'elle n'existe pas. Donc, vous attendrez indéfiniment. Vous ne la rencontrerez jamais. Vous voyez, cette chose très curieuse. L'amour porte sur une réalité existante. Les réalités existantes que j'expérimente, toutes les personnes que je connais et qui existent autour de moi impliquent l'âme et le corps. Ce n'est pas le corps qui va susciter en moi un amour spirituel. Le corps sensible suscite un amour sensible, passionnel. Et la présence de l'âme suscite un amour spirituel. Mais cet amour spirituel passe nécessairement par le point de vue du corps. Donc il n'exclut pas, il n'abstrait pas le point de vue sensible. C'est pour ça que c'est si difficile à préciser la place. Vous voyez, on dira l'exercice de cet amour spirituel implique le corps, implique la sensation. Implique le sensible. L'exercice, c'est un petit peu plus que le conditionnement. C'est l'exercice. Parce que la personne que j'aime, elle existe dans un corps. Et je l'atteins par ma sensation. Je ne peux pas abstraire ça. Vous voyez, quand je prends cet exemple, puisque c'est l'exemple classique, quand Jacob a le coup de foudre pour Rachel, vraiment, le coup de foudre. Il l'a vu. Il l'a vu. Un clin d'œil. Il l'a vu. Et son amour va tout de suite dépasser l'aspect purement sensible. Ça pourrait rester à ce niveau-là. Et là, c'est très net. C'est pour ça que je prends cet exemple. Il l'a vu, il l'aime. Et immédiatement, son âme est prise. Il y a un amour spirituel, c'est très mystérieux, ça reste toujours quelque chose de très mystérieux, ça ne s'explique pas, ça ne peut pas s'expliquer. chose, une rencontre spirituelle, un amour spirituel qui naît. Ah, ça c'est le fondement de la morale. La morale commence à partir d'un amour spirituel. Donc j'ai l'expérience d'un amour d'amitié, au sens très fort. Mais c'est cet amour spirituel qui est le fondement. Cet amour spirituel, donc, ne peut pas s'abstraire du corps. Et toute la morale, ce réalisme très concret qui ne peut pas, la morale ne peut pas s'abstraire du corps. Vous voyez que l'impératif catégorique se ramène donc à Kant, se ramène donc à Platon. Derrière Kant, il y a Platon. C'est comme si c'était une âme séparée qui aimait. Alors qu'il dit, il faut. C'est très curieux, ça. Et ça se ramène à Descartes. Pour Descartes, il n'y a pas d'amour spirituel. Il n'y a qu'un amour passionnel. Et l'aspect passion est mécanique. Ça ne fait pas partie de la vie. Et la morale commence. Non pas par l'amour spirituel, mais par cette volonté impérative, puisque la volonté pour lui, c'est la volonté d'efficacité, il faut. Vous voyez, le grand-père de Kant, il est français. Et on retrouve là l'attitude stoïcienne. C'est très important, je crois, que dans une morale, uniquement, impérative, le corps n'est pas présent. Alors, quand il s'agit d'amour d'amitié spirituelle, l'amour d'amitié au sens fort, il est évident que cet amour d'amitié ne peut pas faire abstraction du sensible. C'est impossible. Il faut en être lucide. Prétendre, ce serait de l'angélisme. Ou ce serait moins beau que de l'angélisme, être kantien ou être cartésien. Ce sont des petits anges, ça, vous voyez. Je ne dis pas des anges loups, mais ce sont des petits anges, quelquefois pas très nets et très purs. Parce que qui fait l'ange fait la bête. C'est vrai, c'est un manque de réalisme, ça. Dans tout amour d'amitié, la sensibilité est présente, la passion est présente, et le corps est présent. Mais l'amour d'amitié véritable consiste à dépasser le point de vue sensible et regarder quelque chose de profond, de spirituel. C'est la personne qu'on aime. Or, la personne n'est pas constituée par le sensible, n'est pas constituée par le chair, la chair et le sang. La personne est constituée directement par l'esprit. Alors, nous comprenons, vous voyez, cette chose difficile, mais importante, que l'exercice de l'amour spirituel ne peut pas s'abstraire du corps. Et l'amour spirituel touche, atteint quelque chose qui est au-delà du corps. Donc, on précise le caractère spécifique de l'amour spirituel et l'exercice de cet amour spirituel. Il faut donc faire la distinction entre le caractère spécifique, ce qui détermine, et puis l'exercice. Une philosophie qui ne fait plus la distinction entre les deux, c'est-à-dire la méthode phénoménologique qui ne distingue plus les deux. C'est par l'exercice que j'atteins le point de vue de la spécification. Vous voyez les conséquences pour l'amour d'amitié. L'amour d'amitié demeure toujours dans le sensible. L'amour d'amitié ne s'élève jamais au-delà, puisque je ne peux pas atteindre la personne. Ça, c'est très important quand on fait la distinction entre l'exercice et le caractère spécifique, ce que nous pouvons faire dans une philosophie réaliste. On peut distinguer divers types d'amitié, quoi. On peut distinguer ça. On est suffisamment lucide pour cela. Donc, le caractère spécifique est autre chose que l'exercice. Donc, on va contre l'expérience, sans distinguer. Mais on peut inverser l'ordre et considérer que c'est à travers l'exercice que nous atteignons le point de vue spécifique, ce qui est très juste. C'est à travers l'exercice que le caractère spécifique se fait. Alors, est-ce que le caractère spécifique transcende l'exercice ou ne le transcende pas? C'est là la subtilité. Eh bien, je dirais que le caractère spécifique transcende l'exercice, tandis que dans la phénoménologie, le caractère spécifique est dans le prolongement de l'exercice. C'est très curieux, vous voyez? Il y aurait des analogies à faire, là, avec Heidegger, au point de vue de l'être. Pour Heidegger, l'être et les temps se séparent complètement, puisque l'être est en dehors de l'étang. Il faut nier l'étang pour que l'être apparaisse. Pour Aristote, nous disons que l'être est dans l'étang. J'existe, j'existe, donc je suis. Dans mon être tel qu'il est actuellement, donc dans mon étant, ma manière d'exister. Je distingue donc le « je suis » et dans ma manière d'exister. Ma manière d'être et ma manière d'être, c'est mon étant. Donc je ne sépare pas les deux. Si je supprime ma manière d'exister, je supprime mon être. C'est donc à l'intérieur de ma manière d'exister que je découvre le « je suis ». Et je comprends que le « je suis » a un caractère spécifique, distinct de ma manière d'exister. C'est pour ça qu'il peut y avoir une métaphysique. Si le « je suis » s'identifiait à ma manière d'exister, il n'y aurait pas de métaphysique. Puisque je ne pourrais jamais saisir ce qu'est l'être comme tel. Tandis que je le saisis à partir de mon exister. Alors, quand il s'agit ici, du côté affectif, je dis que l'amour spirituel est l'analogue de l'être. Et l'amour sensible, passionnel, impliquant les sensations, tout cela, regarde l'exercice. Ici, le caractère spécifique. Voilà ce que j'essaie de comprendre. Que l'amour spirituel atteint la personne. Et donc, il est spécifié par la personne. Tandis que l'amour sensible et passionnel atteint bien la personne, mais dans sa manière sensible d'être. Sa manière sensible. Premier lieu, c'est ça qui impressionne mes sens, c'est ça qui éveille mes passions. Il a des yeux extraordinaires. J'ai remarqué ça, vous savez. Je suis persuadé que Jacob devait dire ça de Rachel. Elle a des yeux, j'en ai jamais vu comme ça. Alors je suis tombé amoureux à cause de ses yeux ou à cause d'elle. Alors si vous posez la question à Jacob, il dira je sais pas. Et c'est vrai, c'est à cause des deux. C'est ça le mieux. Je ne peux pas séparer dans l'exercice, mais il y a quand même un dépassement de l'amour spirituel. Donc vous voyez, si je sépare les deux, que j'ai dit l'amour spirituel, seul compte, il faut laisser tomber tout le reste, je suis un, j'idéalise. C'est pas vrai. Le milieu, épanouit l'amour spirituel, c'est toujours un milieu sensible. C'est l'exercice. L'exercice permet le milieu. Et le caractère spécifique de l'amour humain, dans un amour spirituel, dans un amour d'amitié, c'est un amour spirituel qui porte sur la personne. Mais la personne, elle est toujours liée à la manière d'exister. Il n'y a pas une personne idéale, séparée. Non. Elle existe dans la manière d'exister. Donc, vous voyez, le réalisme de l'être fonde bien ce réalisme de l'amour. Tandis que si au contraire, je suis heideggerien, ou je suis cartésien, ou je suis kantien, parce que ça se tient tout ça, c'est la même famille. C'est la même famille. C'est très curieux, avec des modulations différentes. Parce qu'il y a le grand-père, l'arrière-grand-père, le grand-père, le fils. Mais c'est des modulations différentes. Si je suis heideggerien, je sépare l'être de l'étant. Qu'est-ce que je fais du côté de l'amour ? Je sépare l'amour spirituel de l'exercice. Je ne peux pas faire autrement. Et si je suis husserlien, je ferai exprès des modalités parce que c'est important de voir ça. Je dis que ma méthode phénoménologique, Heidegger a rompu avec Husserl à cause de ça. À cause de ça. C'est pour ça que pour saisir l'être séparé, ce que Husserl ne pouvait absolument pas parce qu'il était esclave de sa méthode. Si vous êtes esclave de la méthode phénoménologique, vous restez dans le vécu. Or, le vécu, c'est l'exercice. C'est l'exercice, le vécu. Quand vous avez eu un très gros choc, vous regardez le vécu, c'est l'exercice. C'est tout le milieu dans lequel on est. Or, dans la phénoménologie, restant dans le vécu, reste dans l'ordre de l'exercice. Et donc, n'atteint jamais le caractère spécifique, propre de la personne qui fait naître l'amour spirituel. Je reste donc dans l'amour sensible. Je dis oui, dans cet amour sensible, il y a quelque chose qui se stabilise. Parce que l'amour sensible, par définition, ça dépend des jours, des passions, vous savez bien. Il y a des jours de bonne humeur, des jours de mauvaise humeur. Des jours où on sourit à tout le monde, des jours où on fait la tête de poids à tout le monde. C'est l'amour sensible, ça. L'amour spirituel est au-dessus des nuages. Vous êtes suffisamment haut, vous êtes au-dessus des nuages. L'expérience que nous faisons quand on est en avion au-dessus des nuages, alors vous dites l'amour spirituel, le ciel est bleu, admirable. Et tout le reste, oui, mais vous êtes passé à travers tout ça. C'est sûr, vous êtes passé et puis vous découvrez quelque chose. C'est très vrai ça, on découvre quelque chose de spirituel, tandis qu'au contraire, si vous êtes enfermé dans la méthode phénoménologique, faites juste l'inverse de Heidegger. C'est pas étonnant, il a rompu avec Husserl. Et vous restez dans cet amour sensible. Et vous découvrez à travers cet amour sensible quelque chose. Mais vous ne découvrez jamais l'amour sensible, l'amour spirituel, qui a un caractère spécifique propre. Donc, je donne ça exprès, parce que c'est intéressant de préciser ces positions. Celle de Husserl, celle de Heidegger, puis celle d'Aristote. Le réalisme dans l'ordre de l'amour. Et le réalisme dans l'ordre de l'amour consiste à ne pas séparer, mais à distinguer. Que l'amour spirituel touche quelque chose de particulier. Mon amour spirituel, il est, c'est vrai, il est dépendant d'une certaine manière dans son exercice. Alors, quand je dis dépendant dans son exercice, voyez, ici encore, distinguons le premier dans l'ordre génétique, donc le premier dans l'ordre de ce qui devient, du devenir. C'est vrai, c'est cet amour sensible. Mais le premier dans l'ordre de nature, donc dans l'ordre de perfection, c'est cet amour spirituel. C'est cet amour spirituel qui donne le sens à tout l'exercice de l'amour sensible et passionnel. L'amour passionnel, l'amour sensible, en eux-mêmes, n'ont pas de signification humaine. Un petit chien, une petite fièvre est vraie pour le chat, vous voyez. Elle est toujours un peu chatte, la fibromyalgie. C'est très curieux. Toujours un peu dans le brouillard, comme ça, dans le point de vue sensible. Elle n'émerge pas. On n'arrive pas à dépasser, on reste un brouillard. On aime de rester un brouillard. Le vécu, c'est toujours un peu le brouillard. Le sensible, le passionnel, c'est toujours un peu le brouillard. Ne cherchez pas à voir. J'aime, c'est pas... Le petit instant d'amour passionnel. Oh, ne cherchez pas, j'aime, c'est le principal. Mais non, c'est pas le principal. Parce que si vous aimez de façon passionnelle, mais non, ça n'aboutira pas. Il faut que ça aboutisse à un amour spirituel. C'est très difficile d'être lucide dans son amour. C'est très très difficile, mais c'est quand même très important. Alors, la question posée, vous voyez bien. Peut-on dire qu'une amitié spirituelle a besoin du corps comme condition sine qua non? Alors, condition sine qua non, c'est bien évident. Puisque, dans l'ordre génétique, il y a nécessairement l'amour sensible, il y a nécessairement la sensation, l'amour sensible et passionnel qui existe, ça ne peut pas être autrement. Point de vue génétique. Parce que je n'aime pas une âme spirituelle séparée. Oh, ce que j'aime en toi, c'est ton âme spirituelle. Vous êtes de temps en temps dit ça. Oh oui, c'est très très bien. Vous avez une belle âme, c'est très bien. Vous avez un triste corps, mais vous avez une belle âme, c'est déjà... C'est d'ailleurs quelque chose. Oh, une belle âme. On dit ça, mais en réalité, c'est pas vrai. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a dépassé l'amour sensible, qui ou séduisait, ou au contraire, provoquait une antipathie. Il y a des êtres qui vous provoquent une antipathie. Et vous pourrez très bien aimer spirituellement cela. Il y a des choses qui répugnent à la sensibilité et que l'amour spirituel arrive à vaincre, à dépasser. Ça, c'est donc, il faut bien comprendre que la question du corps est présente pour l'exercice. Pouvons-nous aller plus loin? C'est ça qui est intéressant. Donc, premièrement, au point de vue de l'exercice. Deuxièmement, pouvons-nous aller plus loin? C'est-à-dire, quand l'amour spirituel est né, quand il donne le sens à l'amour sensible, cet amour spirituel dépasse l'amour passionnel. Il a sa signification propre, il a sa finalité propre. On aime l'autre, mais il a toujours besoin du milieu sensible. Il ne peut pas s'en séparer. Il s'en distingue, mais il ne s'en sépare pas. Il peut, alors, à ce moment-là, assumer le corps pour s'exprimer. C'est pour ça qu'on dit, pourquoi a-t-on le besoin de dire à quelqu'un « je t'aime » C'est idiot. Puisque l'amour suffit, il n'a pas besoin de dire « je t'aime ». L'amour dépasse le point de vue de la connaissance. Ah oui, mais c'est à cause de l'autre. Mais même pour soi, on a besoin de se donner du courage. Et dépasser le point de vue sensible. Alors on le dit. Et quand on le dit, on assume la parole. Et on assume le corps, le geste. C'est la manière dont l'amour assume le corps. Et s'exprime par le geste. Alors, on peut donc dire que le corps est présent de deux manières. Et de deux manières tout à fait différentes. L'une qui s'impose comme une condition sine qua non pour l'exercice. L'autre qui est le fait que l'amour spirituel étant plus fort que l'amour sensible et passionnel peut assumer le corps et se servir du corps pour un certain rayonnement, un certain développement. Il se sert du corps à ce moment-là. Il se sert de la parole. La parole liée au corps. Il se sert du geste. Il se sert de la proximité. Oui, si on n'avait pas besoin du corps, on n'aurait jamais besoin de se rencontrer. Quand on s'aime. On s'aime, c'est suffisant. On s'aimera à 5 heures de l'après-midi, si tu veux. À 5 heures de l'après-midi, juste à 5 heures. On pensera l'un à l'autre. Puis ce sera suffisant. Et puis quand on s'aime beaucoup, on pensera à chaque fois que ça sonne. Suffisant. Donc chaque moment de l'heure. Et tout soit. fois par jour. C'est déjà pas mal. On se rendra 12 fois visite. On est très loin sans qu'il n'ait pas d'importance. Spirituellement, on est tout proche. Oui, celui qui dirait ça, il y a quelque chose qui marche plus très bien. Qu'est-ce qu'il a ? Il commence à être complètement partir un peu loin. Il plane. C'est très curieux. L'amour spirituel, en raison de son réalisme qui touche la personne, réclame la présence physique et sensible. Parce qu'il regarde la personne. S'il regardait l'âme séparée, serait tout à fait différent. Il regarde la personne et la personne implique le point de vue sensible. Donc, c'est pas seulement dépasser, c'est assumer. Alors là, je crois qu'il faut dire qu'il doit assumer pour s'exprimer, pour s'étendre, exprimer ce qu'il est, et pour pouvoir davantage se servir du corps pour pouvoir rayonner. Alors là, le danger, vous voyez, est l'éducation de l'amour d'amitié. Si l'élément corps sensible devient trop fort, alors, on retombera dans l'aspect du point de départ. Il y aura régression. C'est ce qu'on peut appeler. On peut appeler, il y a des régressions dans l'amour d'amitié. Parce que l'amour d'amitié, au sens tout à fait rigoureux, est-il un habitus ? Si l'amour d'amitié était un habitus, alors à ce moment-là, il ne pourrait pas y avoir régression. Et quand il est qu'une disposition et qu'il est capable, il peut y avoir. Ça, on reprendra ça parce que c'est très important. Et c'est quelque chose d'important de voir l'aspect du respect de l'autre qui intervient. Et alors, je dirais l'aspect moral qui intervient, sachant très bien que le point de vue du corps risque toujours d'éveiller un aspect passionnel qui, à certains moments, peut comme l'emporter sur l'amour spirituel. Et c'est ce qui explique.